mieux pour investir, le déchiffrage.
Et oui, notre déchiffreur, on va faire un petit peu le bilan de ce premier semestre et regarder ce qui nous attend pour le second. On peut s'attendre quand même à un été qui s'annonce tumultueux, ça on vous le dit depuis quelques semaines du fait de la volatilité sur certains marchés là en ce moment. Gustave Sanden de Colbert qui est en direct avec nous. Bonjour Gustave.
Bonjour,
et Mathias Bacino, Trade Republic. On parlait du Bitcoin à l'instant.
Ouais.
Je sais plus de qui elle est. B.B. King ou Muddy Waters, un des deux. The thrill is gone sur le Bitcoin. La magie est partie. Le frisson est parti. On a l'impression, et on voit avec les CGP qui se succèdent et les analyses de marché autour de ce plateau. Ouais, les clients, ils posent plus trop de questions sur le Bitcoin. Alors, est-ce qu'ils font leur
étonnant,
petit business entre eux? Est-ce que c'est plus du tout un investment case en ce moment? On se pose quelques questions. C'est vrai qu'il y a de la pression sur les cours. Bon, il y a toujours eu de la volatilité sur le Bitcoin. Ça, c'est pas un secret. Mais là, on a l'impression qu'il y a un truc qui est cassé dans la machine. Et est-ce que vous embrassez ce point de vue?
Alors, pour moi, le Bitcoin reste une assurance efficace contre le risque de débasement monétaire. C'est-à-dire, si jamais l'Europe, les États-Unis, effectivement, ratent leur politique monétaire dans les années qui viennent, et qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où l'euro ou le dollar perd beaucoup de valeur, effectivement, le Bitcoin est une forme d'assurance efficace contre ce risque-là.
Or, là...
Et le risque de débasement monétaire, en tout cas dans la perception qu'en ont les gens, a baissé. Parce qu'avec le retour des empires, le retour des États-puissances, avec le retour d'une politique beaucoup plus forte et régionalisée, entre guillemets, du côté des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie, eh bien, la peur de voir la monnaie perdre de la valeur a reculé. Mmh. On a d'autres angoisses, d'autres sujets.
Oui,
et
même
si la situation réelle du système monétaire reste quand même en partie inquiétante, entre autres sur l'euro à cause de la France, eh bien, l'intérêt d'avoir une assurance qui coûte relativement cher, puisqu'elle vient de perdre 50% de sa valeur, pour ce risque-là, est moins intéressant actuellement. Du côté de l'intérêt de la technologie blockchain elle-même, le narratif, c'est plutôt tourné vers les stablecoins et la tokenisation de manière générale des actifs financiers. Mmh. Et enfin, force est de constater que quand vous avez une assurance qui coûte cher pour un risque qui diminue, en tout cas dont la perception diminue, et que de l'autre côté, vous avez des opportunités d'investissement qui sont beaucoup plus attractives, eh bien forcément, vous avez moins d'attention. Et comme le Bitcoin est un actif qui dépend beaucoup de l'attention qu'on lui porte et de ce que j'appelle moi la valeur de foule,
ouais,
eh bien actuellement, il y a moins de bruit, il y a moins d'acheteurs et ça stagne. Donc voilà.
Le fameux côté, j'en veux parce que ça monte.
C'est un vrai sujet.
Ouais.
C'est un vrai sujet. Et je vois pas comment, à part une sorte de mini crack ou une baisse un peu plus forte sur le Bitcoin, lié à un événement exogène qui pourrait relancer une volonté d'entrer sur l'actif plus bas, peut-être à 50 000 ou plus bas. Hein, beaucoup parlent de 30 000. J'ai un peu de mal à voir où est le rebond, tout simplement.
Ouais.
Et puis par ailleurs, les états Bitcoin sont moins Bitcoin que prévu. Donc voilà, je note que le narratif autour du Bitcoin a effectivement beaucoup baissé, même si son rôle de long terme reste là. Voilà, ça reste effectivement une assurance contre le risque de débasement monétaire.
C'est vrai que oui, on n'entend plus trop parler du Bitcoin, on n'entend plus trop parler le président salvadorien, on n'entend plus trop parler les pays d'Afrique qui l'ont adopté un peu à l'arrache. Bon, c'est plus un investment case en ce moment le Bitcoin, ou alors est-ce que vous pensez qu'on est quand même sur une base de valeur intéressante qu'il faut toujours garder sous le coude et pas non plus délaisser complètement, Gustave?
Je pense que il y a quand même un double effet, c'est-à-dire le premier, c'est, je le rappelle, quand Donald Trump a pris du coup ou démarré son mandat, il a voulu effectivement évangéliser, démocratiser, lever certains verrous sur le Bitcoin. Il y avait quand même une raison à ça, et c'est peut-être du coup de l'autre côté qu'il faut le regarder. C'est que finalement, le but premier, c'était que l'étalon or du Bitcoin soit le dollar. C'est-à-dire que les stablecoins...
Oui, il faut bien une masse sur la balance.
Exactement. Et donc, en fait, est-ce que ce n'est pas l'inverse? C'est-à-dire que le Bitcoin qui devait se dédollariser, ou qui devait nous permettre justement d'être une assurance par rapport aux monnaies classiques, est-ce que ce n'est pas devenu la pompe à dollars dont avaient besoin les États-Unis à ce moment-là, en partie. Il y a également d'autres sources acheteuses pour le dollar comme le pétrole, et je pense qu'on y est pas mal revenu ce semestre.
Oui.
Mais est-ce que c'était pas un coup de poker qui a finalement fonctionné ? Et est-ce que finalement la déflation du Bitcoin, elle s'est pas reportée justement sur la stabilité ? Elle a pas notamment, en tout cas, participé à financer la stabilité du dollar. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, ça reste un mouvement de marché, ça reste des flux, et ces flux peuvent se réorienter. La conviction, elle peut se reporter à nouveau vers le Bitcoin et à un moment donné s'en dissocier. Pour l'instant, on a toujours essayé de construire des bêtas entre le Bitcoin et tout un tas de classes d'actifs. D'abord, c'était l'or. Ensuite, c'était le Nasdaq. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Donc, c'est ni l'un ni l'autre, en tout cas. Mais donc, potentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Et que donc, demain, le Bitcoin pourrait finalement redevenir ce pour quoi il a été créé, c'est-à-dire cette réserve. Et vous disiez, beaucoup de vos analystes ou commentateurs de marché sans détour n'en entendent plus parler. Moi, je peux vous dire que parmi nos clients, on a quelques personnes qui ont gagné quand même pas mal d'argent sur cette classe d'actifs, que ce que j'ai vu sur les gens qui ont vraiment des positions en Bitcoin, qui sont substantielles, c'est que l'enjeu était plutôt de la sécurisation. Et une manière de les sécuriser, c'est de les détenir via des ETF, que ce soit sur des comptes titres ou des contrats d'assurance vie luxembourgeois, on peut le faire.
Oui, tout à fait.
Et donc, on a en fait, de notre côté, on n'est pas, nous, on est encore un peu vieux jeu, donc on n'est pas nécessairement proactivement conseil. Néanmoins, on sait très bien traiter ce type de demande. Et on n'a jamais autant acheté qu'en ce moment des ETP Bitcoin dans nos contrats d'assurance vie luxembourgeois. Donc, bon, pas le torse, parce que ce n'est pas que mon idée, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, j'observe que chez mes clients qui sont nettement plus avancés que moi sur ces analyses, et quand même, quand je dis avancé, c'est aussi croyant d'une certaine façon.
Oui.
Mais quand on a gagné un paquet de fois, ça renforce les croyances. On a quand même des positions acheteuses et ces positions, via typiquement les contrats luxembourgeois, elles sont construites pour durer.
Oui, oui, totalement.
C'est pas de la spéculation. Pas de la spéculation à 3 mois. C'est-à-dire que c'est de la conviction longue et profonde.
Il faut vraiment faire la différence, et peut-être bien la moyenne, surtout quand on est gestionnaire et qu'on donne accès à ces solutions, entre le fameux crowd trading dont vous parliez, à savoir j'achète parce que ça monte et parce qu'on en parle, et puis ceux qui ont des positions longues et qui vraiment gardent et font fructifier. Donc ça, c'est intéressant.
Attention peut-être, Antoine, à Kevin Warsh, parce que comme Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, est censé réduire la taille du bilan de la Fed, ce qui est plutôt positif, entre guillemets, pour le sérieux de l'économie américaine, et ce qui va encore réduire le risque de débasement monétaire américain. Donc voilà, si Kevin Warsh remplit son rôle tel qu'il a annoncé qu'il voulait le remplir, avec une forme de sérieux et la volonté de réduire la taille du bilan de la Fed, attention, parce que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Bitcoin non plus.
Effectivement. Bon, quand même, Gustave, sur ce premier semestre, c'est vrai qu'on s'est fait peur, on continue à se faire peur parce qu'on voit beaucoup de volatilité, on voit beaucoup de classes d'actifs qui ont vraiment connu des destins tourmentés ces dernières semaines. Au final, le CAC 40 a 100 points de ses records absolus. Wall Street, bon, bah, qui reste comme ça. Bon, le seul truc qui inquiète un petit peu, c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours sur le fil de rasoir concernant l'IA. On a le patron d'Anthropique qui continue à dire, et interview après interview, que globalement, il ne sait absolument pas où il va. Enfin, je trouve ça totalement dingue. Et on reste sur un marché qui a l'impression de danser un petit peu sur un volcan. Enfin, je ne sais pas, cette fin de premier semestre, est-ce que ça vous évoque quelque chose comme ça ?
Je pense qu'on pourrait faire un montage marrant entre cette émission et la même l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé absolument rien en commun.
Non.
Et pour autant, c'était presque le même film sur les marchés.
Exactement.
C'est-à-dire que, et en termes de temporalité, c'est assez frappant. C'est-à-dire que on a finalement un début d'année qui part bien, toujours nos champions, nos favoris qui mènent la danse, avec peut-être quand même cette année une place plus importante pour les players d'infrastructures et de semi-conducteurs. Puis ensuite, effectivement, un pic de volatilité. Donc l'année dernière, c'était pas le même catalyseur. Cette année, c'est évidemment ce conflit iranien. La grande différence, elle est probablement énergétique cette année, parce que les conséquences de cette crise énergétique, elle est probablement pas pricée. Là, tout de suite, le niveau du pétrole est revenu, finalement, au niveau d'avant-crise, ou presque. En tout cas, on a largement absorbé le pic de 110 dollars, ça c'est clair, on est autour des 70 aujourd'hui. Et probablement, la grande différence avec l'année dernière, c'est pas que les actifs technologiques sont chers, ils l'étaient, c'est que le risque inflationniste lié à ce choc énergétique est très peu pricé. Je regardais là juste avant de rentrer sur le plateau, il y a 10 navires par jour qui passent hein, dans le détroit d'Hormuz versus 140. Donc moi, je trouve les marchés sur le plan énergétique extrêmement optimistes et que probablement la grande différence, ou en tout cas le point d'attention focal, en dehors des niveaux de valorisation, mais qui, je le rappelle, sont sans cesse compensés par des résultats astronomiques, il est quand même sur ce niveau d'inflation. Il va falloir effectivement que, un deal soit trouvé pour de bon, et deux, qu'on nous explique comment on va compenser toutes ces capacités de production et notamment relancer aussi le commerce et la traversée de ce détroit qui est quand même complètement miné, pour effectivement baisser durablement le coût de l'énergie et que ça ne se reporte pas sur l'ensemble de l'économie. Donc pour moi, même film, mais pas la même conclusion.
Mais du coup, Mathias, la clé, ce sera peut-être les résultats d'entreprise. Alors, on le dit toujours, c'est un petit peu impensif aussi, mais c'est peut-être là qu'on va lire justement cette agitation et cette atmosphère de « Attendez, le dossier, il n'est pas réglé, là. » Et qu'on va avoir quelques petits signaux d'avertissement de la part des entreprises, concrètement.
En fait, le sentiment, c'est que le marché attend un signal négatif de retournement, en fait. Et parce que si on a un marché qui n'anticipe pas comme un retour durable de l'inflation, comme tu le disais, Gustave, c'est qu'il anticipe une forme de stagflation, en fait. Et je crois qu'actuellement, j'ai pas réussi à lire un économiste ou un analyste ou un stratégiste qui dise clairement où on en est, parce que le bilan du premier semestre, je suis d'accord avec toi. De l'extérieur, on est dans une situation assez similaire finalement à l'été dernier. C'est étonnant. Mais en profondeur, je ne suis pas persuadé que les fondamentaux économiques soient les mêmes qu'il y a un an. Et le sentiment que j'ai actuellement, c'est qu'on a une crise énergétique qui est intervenue à un moment où l'économie mondiale devait se relancer. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû être sur une inflation basse, des taux qui baissent, y compris aux US. On aurait dû être là-dedans en ce premier semestre 2026, finalement. Et on ne l'a pas été à cause du conflit en Iran. Et donc, soit on est en train de reculer pour mieux sauter, en fait, dans quelques temps, dans une période où, effectivement, l'économie ralentit assez fort. Et donc, l'inflation ralentit, elle aussi, parce que les salaires, en fait, n'augmentent pas. Et donc, on a une contraction du pouvoir d'achat, ce qui, a priori, va être le cas en Europe. Ou alors, on a un signal très négatif à un moment donné qui vient, entre autres, dans les publications de résultats, du côté, entre autres, des hyperscalers qui, avec la hausse des coûts des semis, sont en train de peut-être se retrouver pris en sandwich dans un moment un peu difficile.
Comme Microsoft et Apple qui ont déjà donné des indications.
Typiquement. Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est allé d'une période très tech, où on parlait beaucoup des Mac 7, à une période très IA, où on a beaucoup parlé depuis un an des entreprises qui fabriquent l'IA, les outils d'IA, à une période semi-énergie. Et dans cette période-là, où ce seraient les semi-conducteurs et l'énergie qui feraient le marché, eh bien, je ne sais pas si on a une capacité de production suffisante à court terme pour être capable de soutenir cette croissance-là. Donc, je redis ce que j'ai dit. Attention, par exemple, à une entreprise comme Oracle, qui est particulièrement leveragée elle pourrait déclencher quelque chose d'un peu négatif pour les marchés à un moment donné.
Il y avait déjà eu plusieurs avertissements sur Oracle. Le dernier, c'est pas que sur leur santé financière. C'est quand même le type qui nous dit, droit dans les yeux, « Ah oui, on peut remplacer 10 000 emplois dans notre entreprise par de l'IA. Enfin, » Un mec qui se rend compte du jour au lendemain que l'IA peut remplacer 10 000 personnes. Enfin, ça va pas. Il y a un truc qui va pas.
Ce qui est sûr, c'est que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça, c'est parfaitement clair. Bon. Et les gains de productivité ont l'air d'être réels. L'impact sur l'emploi, il est totalement inconnu. C'est-à-dire que les jours, moi, je lis un truc différent.
Je veux dire, Microsoft est en train de former parallèlement 10 000 personnes pour former les gens dans l'entreprise à l'utilisation de l'IA.
Les plus gros investisseurs en IA sont les plus gros recruteurs du moment.
Oui.
C'est-à-dire que
ça augmente, tout à fait. Les entreprises qui investissent,
l'IA sont les entreprises qui embauchent le plus.
Ça suit pas du tout l'intuition qu'on pouvait en avoir il y a encore quelques semaines.
Ce que je me disais en vous écoutant, c'était finalement, on cherche souvent une raison exogène au marché pour trouver le catalyste. Et finalement, ce qui a porté le marché jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt des raisons endogènes, c'est-à-dire les résultats. Et c'est probablement d'une raison endogène et pas d'une raison exogène qu'on aura le prochain catalyste. Que là, je pense que demain, les semis, ils annoncent moins 10 sur les résultats, par rapport au forecast, je pense qu'on passe pas une bonne journée de bourse.
Non, non, ça va être terrible.
Donc, et je sais pas comment ça s'arrête derrière.
Mais et parallèlement, Gustave, il y a hors tech, semi et IA. Moi, je remarque quand même que depuis le second semestre, ce qui marche, alors Bourse de Paris, hein, parce que on regarde avec la loupe, c'est tous les dossiers qui ont été massacrés au premier semestre. C'est l'automobile, c'est le luxe qui se réveille, c'est la bonne vieille industrie, c'est tous ces secteurs-là, la défense, parce qu'en plus il y a des phénomènes de regroupement là en ce moment avec Exel Technologies, mais pas que. Ça peut être aussi le soutien des marchés en cas de trop forte volatilité sur la tech, ça.
Bah, il y aura peut-être effectivement un petit peu de rotation.
Voilà.
On a vu déjà un peu de rotation au mois de juin. Mmh. Les champions, notamment aux US, c'est les bonnes vieilles industries.
Voilà.
Donc, celles qui résistent le mieux au choc. Donc on dit staples, les biens de consommation
premiers. Les agrafes.
Voilà, healthcare et les financières ont été en tête en fait, dès le mois de juin. Et donc ça déjà, quand vous avez une croissance asymétrique, bah, ça participe à la rotation. Ils n'ont jamais représenté aussi peu depuis 2000. Hein. Dans le S&P 500, ces différents secteurs. Donc en fait, même leurs variations de plus de 10%, on les voit ou on les sent presque pas. Ça reste des industries essentielles. Je pense que les êtres humains qui font comme la consommation continuent de consommer, continuent d'être bancarisés, continuent de se soigner. Et donc, effectivement, il y a probablement un peu de réserve de performance. C'est peut-être aussi d'ailleurs le sens que doivent, ou en tout cas peut-être la leçon qu'on doit retenir ou ce qu'on doit avoir en tête sur ce second semestre. C'est surtout si on a eu la chance de participer aux gains de ce premier semestre, peut-être qu'un peu de diversification dans le portefeuille, surtout que les indices ne la permettent pas, encore une fois, puisque vous avez du coup cette toute petite quote-part aujourd'hui de ces industries qui sont pourtant essentielles à nos économies. Typiquement, sur ce type de stratégie, aller chercher du thématique, aller chercher potentiellement même du titre vif si vous êtes aventurier. mais en tout cas... Si vous avez un indice Nasdaq, vous n'en avez pas. Si vous avez un indice S&P 500, vous n'en avez presque pas. Et c'est aussi une manière de se diversifier, de suivre ce bon vieux précepte pour peut-être mieux s'armer sur le second semestre.
Gustave Sanden de Colbert, Mathias Vachino de Trade Republic. Merci infiniment d'avoir déchiffré cette actualité du jour et fait le bilan de ce premier semestre à retrouver, hein, bien sûr, en replay et en podcast.